Dans le cadre de leur émission Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent une série de trois émissions sur « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux ?» Nous continuons nos émissions sur la résistance à Nîmes et sa région durant l'année charnière 1942. Et accompagné par la chanteuse italienne Rina Chetti et son grand succès de 1938, J'attendrai, qui fit pleurer plus d'une mère ou d'une veuve de guerre. Puis nous entendrons le chant des déportés ou chant des marais, composé en 1933 par des prisonniers communistes allemands dans un camp de concentration de Bogemoor.
Pétain axe alors avec succès sa politique sur le retour des prisonniers de guerre, mais nous avons vu pourtant se constituer ça et là les foyers de résistance à Nîmes et sa région. Prise de conscience et début de résistance encore bien discret. Refus de ralliement au régime tel la décision politique de Georges Bruguier, sénateur socialiste du Gard, qui refuse de voter les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 40. Il n'était que 80 sur 671 parlementaires présents à le faire. Ou bien abstention de ses maires cévenols de participer aux cérémonies patriotiques ordonnées par le maréchal le 14 juillet 1940. Puis on a vu que la répression contre les réfugiés se durcissant et les camps de détention devenant des camps de déportation, les missions caritatives se transforment en aide aux détenus en fuite vers l'Espagne et la Suisse avec des faux papiers fabriqués par la CIMADE. Des informations censurées commencent à circuler clandestinement.
On a vu aussi que, fin 1941, les mouvements de résistance non communistes de notre zone fusionne autour du journal Combat, avec comme responsable local Marcel Bonafou. À l'instar du couple Rascalon, les époux Marcel et Jeanne Encontre, qui demeurent vers la gare 67 rue Roussy, accueillent eux aussi des réfugiés, réfractaires au STO, maquisards et aviateurs anglais ou belges. Employé à la préfecture, Marcel fournit les faux papiers d'identité à des petits juifs qui l'aident à rejoindre des fermes du Chambon-sur-Lignon. Tous deux seront déportés en avril et mars 44, et Marcel ne reviendra pas.
Citons également le couple du chirurgien Paul Cabois, demeurant au 5 rue d'Aimian. Juliette, fille du ministre radical Théodore Stieg et petite-fille de pasteur, faisait des fausses cartes d'identité pour des réfugiés allemands dès juillet 1940, tandis que Paul organisait sur le Gard un réseau médical clandestin pour le mouvement uni de la résistance. Tous deux soignèrent clandestinement réfugiés et résistants à la maison de santé protestante. Leur fils, Jean-Pierre, s'engagera aux côtés de Georges Schuller, originaire comme lui d'une famille patriote de Lorraine, réfugié à Nîmes en 1871. Remarquons que la sœur de Juliette sera déportée, tandis que le frère de Paul, préfet pétainiste de la Creuse puis de l'Aude, était probablement un agent double.
Il faut attendre la rupture du pacte germano-russe de juin 1941 pour que, sur ordre de Moscou, la résistance communiste se structure, notamment à Nîmes ou à l'Est, autour des syndicalistes CGT cheminots, nîmois, Étienne Ranquet ou Gabriel Marty. D'abord comme agent de liaison ou de propagande, puis par mise en place des groupes de francs-tireurs et partisans français. Mais on dispose encore de très peu d'armes, des fusils de chasse ou des vieux fusils de 14, ou bien des explosifs dérobés aux occupants. À partir de l'été 1942, l'audience des mouvements de résistance grandit suite aux décisions impopulaires du régime, en particulier le STO et les mesures antisémites.
Nous parlerons maintenant du début du STO. En mars 1942, Hitler charge Fritz Sockel d'importer de la main-d'œuvre de toute l'Europe pour compenser la mobilisation de nombreux Allemands sur le front russe. Ce travail volontaire est institué en Europe de l'Ouest le 7 mai, y compris en zone libre. Darlan, qui s'y oppose, est remplacé en avril par Pierre Laval, mais peu de Français sont volontaires. Quand Sockel demande 250 000 travailleurs supplémentaires avant la fin du mois de juillet, Laval négocie et le 22 juin propose en participation française contre le bolchevisme le système de la relève permettant de libérer un prisonnier de guerre pour 3 départs de volontaires en Allemagne. Seuls 17 000 volontaires ayant répondu fin août, Sockel menace de réquisitionner la main-d'œuvre masculine et féminine en zone occupée.
Laval édicte alors la loi du 4 septembre pour une conscription obligatoire dans les deux zones, de tous les hommes de 18 à 50 ans et des femmes célibataires de 21 à 35 ans. Le fameux STO. Des incidents éclatent et le 13 octobre, une grève lancée aux ateliers SNCF d'Oulin s'étend dans le Rhône, à Saint-Étienne et Chambéry.
En décembre, si l'objectif de 250 000 hommes pour la France est atteint, il n'y en a que 2500 dans la zone sud où de nombreux jeunes de 20 à 23 ans ont tenté de rejoindre De Gaulle ou se sont cachés à la campagne, dans les familles ou les amis, pour aider aux travaux des champs. Ces jeunes réfractaires qui prennent le maquis sont issus de milieux sociaux variés et le plus souvent sans motivation politique, sinon celle de rejoindre des camarades des mêmes quartiers ou villages.
Citons Jean-Pierre Chabrol, par exemple, arrivé par hasard dans un maquis de francs-tireurs et partisans, FTP, vers Vialas, alors qu'il tentait de rejoindre un maquis de l'armée secrète. Je le cite. « Parce qu'en 1942, je n'ai pas réussi à franchir le Canigou pour rejoindre De Gaulle. » Parce qu'un an plus tard, j'ai rejoint les communistes en les prenant pour des gaullistes, pour ces erreurs de filière et de sentier, parce que j'ai fait le coup de feu sous le drapeau rouge, avec le cœur tricolore, drôle de zèbre, rien désormais ne sera plus pareil.
Parlons maintenant de quelques mesures antisémites. En 1942, les Français ne connaissent pas encore la Shoah, mais ils perçoivent l'injustice des interdictions, brimades et rafles suivies par les Juifs. Si l'Église catholique demeure très discrète sur le sujet, hormis quelques cas isolés, le pasteur Bertrand proteste aussitôt quand le 5 juin, le port de l'étoile jaune devient obligatoire en zone occupée. Or, le 25, les nazis exigent de Vichy le renforcement des mesures antisémites. Après négociation début juillet, Laval s'engage à arrêter 10 000 juifs apatrides. Buckner condamne cette politique antisémite face à Xavier Valla, commissaire général aux affaires juives, et demande à Pierre Laval d'au moins renoncer à inclure les enfants de moins de 16 ans dans les convois de déportation. Pas de réponse, mais la police de Vichy commence à le surveiller.
Le 16 juillet, c'est la rafle du Vélodrome d'hiver à Paris. Buckner prend contact avec le cardinal Gerlier de Lyon et, suite à sa rencontre orageuse avec Laval, écrit le 20 août une lettre d'indignation à Pétain. « Monsieur le maréchal, lorsque vous m'avez fait l'honneur de me recevoir le 27 juin dernier, j'ai remis entre vos mains la lettre par laquelle le Conseil de la Fédération protestante de France confiait à votre cœur de chrétien et de soldat la douleur et l'émotion éprouvées par les églises protestantes devant les nouvelles mesures prises en zone occupée à l'égard des juifs et des chrétiens maintenus juifs par la loi. Je me vois contraint, hélas, de vous écrire aujourd'hui au nom de ce même Conseil pour vous exprimer l'indicible tristesse que ressentent nos églises à la nouvelle des décisions prises. La vérité est que viennent d'être livrés à l'Allemagne des hommes et des femmes réfugiés en France pour des motifs politiques et religieux, dont plusieurs savent d'avance le sort terrible qui les attend. Je suis obligé d'ajouter, monsieur le maréchal, que la livraison de ces malheureux étrangers s'est effectuée en maints endroits, dans des conditions d'inhumanité qui ont révolté les consciences les plus endurcies et arraché des larmes aux témoins de ces mesures. » Le journal gouvernemental « Je suis partout » publie la fameuse lettre pour la dénoncer, mais en lui faisant finalement une publicité inespérée.
Trois jours plus tard, Mgr Saliège de Toulouse lit en chaire sa lettre pastorale sur la personne humaine, un appel aux catholiques à aider les juifs persécutés qui sera reproduite à des centaines de milliers d'exemplaires. Laval intervient en vain auprès du Vatican pour obtenir la mise à la retraite de l'évêque. Puis le 26 août, tandis que Laval ordonne une rafle en zone libre arrêtant 6500 juifs livrés aux nazis, l'évêque de Montauban prononce sa propre lettre sur le respect de la personne humaine. Le 31 août, l'évêque d'Albi redemande au cardinal Gerlier, primat de Gaulle, de faire une déclaration commune. Elle sera publiée le 6 septembre, suivie de la lettre pastorale de l'évêque de Marseille.
On connaît la suite. L'Assemblée du désert, du 6 septembre, avec près de 4000 personnes pressées autour de la chaire du désert. Parmi eux, beaucoup d'éclaireurs unionistes en uniforme, beaucoup de cars venus de Marseille avec, fondus dans la foule, des dizaines de juifs fuyant la ville et qui seront répartis dans les maisons-refuges de plusieurs vallées cévenoles. Devant les micros de la radiodiffusion nationale, Buckner constate que Vichy s'est résolument placé du côté de l'occupant et exhorte les 60 pasteurs présents à sauver les juifs.
Beaucoup le faisaient déjà, et le mouvement est lancé dans toutes les régions protestantes du Midi. À Mandagou, le pasteur Gillier fabrique des fausses cartes d'identité, et dès 1941, le pasteur de Valrogue, Laurent Olivès et son épouse Suzanne, cachent aussi des fugitifs chez leurs paroissiens, dont plusieurs juifs poursuivis par Vichy. Ils distribuent des faux papiers et collectent du ravitaillement. Bien que critiqués par la HSP, ils seront reconnus justes parmi les nations en 1996.
Loin vers l'infini s'étendent de grands prés marécageux. sur les arbres secs et creux. Dans ce camp morne et sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher.
Mais voici que le 8 novembre, les troupes alliées du général Eisenhower débarquent en Afrique du Nord, alors sous l'autorité de Vichy. L'amiral Darlan ordonne de leur résister, mais finit par signer la reddition d'Alger et l'Afrique du Nord passe sous le contrôle allié. Hitler réagit par l'opération Attila. Le 11 novembre 1942, l'armée allemande franchit la ligne de démarcation et entre en France dite libre.
Le même jour, suite au message de Radio Londres et malgré l'interdiction préfectorale, René Rascalon et son petit réseau décident de commémorer le 11 novembre au Monument aux Morts. Puis en décembre, ils cachent au Mazet de l'Aubouilly l'équipe communiste de francs-tireur de Vincent Faïta.
Tandis que la flotte française se saborde en rade de Toulon le 27 novembre pour échapper aux Allemands, sans avoir à se livrer aux Anglais, Allemands et Italiens occupent la Tunisie. 10 000 soldats de la Wehrmacht s'installent dans le Gard en janvier et février 1943, dont 2 000 à Nîmes. La commandante Tour est dans l'hôtel du Luxembourg, sur l'esplanade. La Gestapo, 13 boulevard Gambetta. Et bientôt la milice, au 16 de l'avenue Feuchère. Cette forte présence allemande aggrave la répression et précipite beaucoup de gardois vers la résistance, d'autant que les forces de l'Axe essuient leurs premiers échecs face aux alliés.
Une résistance qui change de visage. Si les distributions de tracts continuent, les groupes clandestins se tournent vers les moyens de lutte plus discrets. Une résistance armée intérieure s'organise au sein de combats. Les premiers groupes francs sont mis en place par Jacques Renouvin. Celui de Nîmes est dirigé par Georges Schouler, alias Fracassi Renoir, aidé par Jean-Pierre Cabois. Ce dernier parviendra à rejoindre Londres par le Portugal début 1943, avant d'être parachuté en Ardèche fin 1943, comme délégué régional militaire. Architecte né et domicilié dans l'hôtel Novi de Cavirac, Schouler organise à partir de juin 1943 plusieurs attentats spectaculaires contre les troupes d'occupation et les collaborateurs. Il sera pris et déporté.
De leur côté, les francs-tireurs et partisans français de la zone sud sont dirigés par le communiste Pierre Doise, en appui sur les brigades internationales plus ou moins armées et constituées d'antifascistes espagnols, italiens et allemands. Le 15 décembre, quand Hitler mobilise à nouveau 300 000 ouvriers allemands pour le front russe, Sauckel réclame un contingent de 250 000 travailleurs avant mars. Après avoir vainement négocié, la nouvelle loi Laval du 16 février 1943 durcit celle du 4 septembre. La mobilisation du STO se fait désormais pour 2 ans et par classe d'âge. Substitue au service militaire, les classes nées entre 1920 et 1922 ont obligation de travailler en Allemagne et les premiers convois partent dès le 7 mars avec de nombreuses défections.
Le 20 février 1943 a lieu à Nîmes un attentat à la bombe sur la maison Carreau, 15 bis de la rue Saint-Laurent, maison close fréquentée par les troupes nazies. 5 soldats et officiers allemands, la tenancière et 2 pensionnaires sont tués. Les autorités françaises déclarent le couvre-feu et prennent une 50aine d'otages incarcérés 10 jours dans la maison d'arrêt de Nîmes.
Le 1er mars 1943, nommé chef départemental des maquis, Rascalon conduit 4 réfractaires au STO, au mât de Madame Rouquette à Saumane, et ravitaillera ce petit groupe qui devra se déplacer à plusieurs reprises.
Mais le 3 mars sont arrêtés Jean Robert, Vincent Faïta, Louisette Sauze-Morin, dite Josette, Jean Casassa, Chabert et Morel, et le 18, le chef départemental de la milice les dénonce comme communo-terroristes ayant perpétré plusieurs attentats à Nîmes. Devenu l'avocat de fait de la résistance, Charles Bedos défend ses 6 FTPF à partir du 29 mars à huis clos devant la section spéciale de la cour d'appel. Si leurs compagnons sont condamnés à la réclusion à vie, Jean Robert comme Vincent Faïta sont guillotinés au petit matin du 22 avril 1943 dans la cour de la maison d'arrêt pour activité communiste et antinationale. Une plaque rappelle cette tragédie. Devenus inutiles dans une zone désormais occupée, Buckner quitte Nîmes pour Paris en avril 1943.